France Inter.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus sur France Inter avec Lisa Delmoitier, avec Fanny Ruet, avec Julien Santini, Alexis Le Rossignol, Jérémy Crédville et Tanguy Pastureau. Et nos invités, pardon, Nadia Tereskevitch et Benoît Magimel. On est tellement nombreux. On est hyper nombreux, soyez les bienvenus. Comment ça va? Comment ça va, Nadia?
Très bien, merci.
Bonjour Benoît, ça va bien?
Ça va bien, merci.
On est ravis de vous recevoir en nombre, vous avez vu. Voilà, on est tous là, tous réunis pour parler, voilà, une grande bande organisée pour parler de Rosalie. Rosalie, ce film de Stéphanie Di Giusto qui est en salle demain. Où vous tenez tous les deux les rôles principaux. Vous, Nadia, vous êtes cette Rosalie dont on va parler au cours de cette émission. On peut dire en deux mots de quoi il s'agit, Nadia ?
C'est une histoire d'amour entre Rosalie et Abel. Rosalie, qui est une jeune femme qui est atteinte d'hirsutisme, donc qui est un dérèglement hormonal qui lui donne la pilosité d'un homme. Et donc c'est à la fin du 19e siècle, cette rencontre avec Abel et l'épanouissement d'une femme.
C'est beau que vous présentiez ce film comme une histoire d'amour, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. On aurait pu, par raccourci, dire c'est l'histoire de la femme à barbe. Et en fait, c'est beaucoup plus élégant. C'est Nadia Tereskevitch, quoi, tout simplement, dans la façon d'expliquer les choses. On commence toujours l'émission par un blind test, et on vous fait jouer, forcément, autour du thème du film. On va voir ce que j'ai trouvé. Vous êtes prêts? Premier titre. Alors, on donne son prénom en rapidité. Le premier titre, ça va être très très rapide. Et on donne le nom de l'interprète.
Jamie
Alexis.
C'est Carlos pour le titre Rosalie.
Non, forcément Rosalie.
On va jouer non pas avec les Rosalie, mais on va jouer avec les prénoms féminins dans les chansons.
Pas les poils donc.
Pas les poils. Et ça sera pour la deuxième partie de l'émission, ça, Lisa Delmoitié. Deuxième titre.
Lisa.
Oui,
Christophe.
Absolument.
Aline.
Tu as le titre.
Ah oui,
Aline.
Prénom,
Christophe, Aline, Lisa.
Un point pour Lisa, un point pour Jérémy. Vous inquiétez pas, ça va venir, Benoît. Benoît est très concentré.
Oui, non, mais là, il y a une équipe sérieuse.
Ah, ils sont en nombre en plus. Troisième titre.
Jérémy ?
Oui,
Lisa. Roxane,
absolument, du groupe.
Police.
Absolument, deux points pour Jérémy, un point pour Lisa. On a fait Rosalie, Aline, Roxane. Celui qui suit est mon préféré.
Jérémy ?
Oui.
C'est Aïcha.
Ah oui.
Non, mais oui.
Juste sur ça, tu le trouves.
Allez.
Oh, Aïcha.
Blind test.
Aïcha, écoute-moi.
C'est mon père.
Khaled.
Ouais.
Ah ouais, d'accord. Je croyais que c'était Johnny. Et son
deux. Lille.
C'est deux papas. Ok. On continue. Cinquième titre.
Jérémy. Ah non. Tanguy.
Absolument, Tanguy. On n'a pas bien entendu. Je crois que ton
micro
est ouvert.
Micro, voilà.
Attends, c'est pas Julien Clerc que tu préfères?
D'habitude.
Un point pour Tanguy qui revient dans la course. Il reste deux titres. Rapidité sur le suivant. Vous êtes concentré?
Oui.
Jérémy.
Tanguy.
Ouais.
C'est seul sur le sable, les yeux dans l'autre. C'est
Tanguy.
C'est Rock Voisine.
Voilà.
Incroyable, là, je pense que Benoît il est dégoûté.
Non, il faut que je me rachète des neurones.
Très nombreux.
Super bon coup après.
Non, mais il le trouve quand même sur vraiment les premières notes. Il le trouve sur ça.
Très fort en prénom.
Mais je vois pas le lien avec.
Bah, Hélène.
Hélène.
Oui, oui, c'est vrai que...
C'est pas deux lettres, Hélène.
Et il reste un titre, et là, c'est vraiment de la rapidité. Là, on monte bien les niveaux dans les casques, là, pour être vraiment au taquet. C'est parti.
Tanguy.
Ouais.
Non. Gabi.
Bravo, Tanguy. Interprète.
Alain Bachung.
Alain Bachung.
Gabi. Gabi.
Et c'est une victoire de Tanguy Pastureau.
Merci, merci.
Bravo Tanguy.
La bande originale, Leïla Kadi.
Revenons à cette histoire d'amour, Rosalie, qui est en salle dès demain. Vous incarnez Nadia Tereskevitch, cette jeune femme. En effet, on est en 1870 dans une France paysanne. On est plutôt dans un village breton, j'imagine. Et le film commence comme un conte. Il commence par un cauchemar. Donc ça nous renvoie à l'univers de l'enfance. Une jeune fille qui se réveille comme ça en sursautant, qui caresse un médaillon avec la photo de celui qu'on imagine être l'être aimé. Donc on pourrait se dire, tiens, il y a une sorte de petit conte de fées qui va commencer. Il n'en est pas exactement question, puisque sa première supplique, c'est de demander à ce qu'il l'aime, tout simplement. Donc on est une première prière inaugurale dans ce film, et qui suit ensuite un grand périple, un voyage à travers la forêt, où sont entremêlées des images de cette jeune fille sur cette charrette conduite par son père, incarnée par Gustave Kervaen, et un cerf comme ça, qui traverse la forêt, qui est poursuivi, une meute de chiens, une chasse à courre. Et on se dit que ce conte, ce parallèle avec cet animal-là, cet animal traqué, annonce des drames. Et on vous retrouve, Benoît Magimel. Déjà, je voulais vous dire tous les deux que vous jouez superbement bien. Ça, c'est une réalité dans tous les films. Et je trouve que votre duo dans Rosalie est merveilleux. J'ai été très émue par ce film. Vous incarnez, Benoît, un ancien soldat meurtri.
Oui, quelqu'un détruit par la guerre et qui je crois, n'attend plus grand-chose de la vie. On le voit arriver avec un fusil pour achever ce cerf, justement. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un qui essaye de redonner vie à des animaux morts. Vous voyez, c'est pas très très c'est pas très folichon. Et en fait, cette jeune femme,
il soulage la douleur de ce cerf, déjà, oui, pour le voir comme ça.
Oui, bien sûr, c'est bien de le noter. Mais non, c'est quelqu'un qui doit se marier pour obtenir de l'argent, tout simplement. C'est un mariage d'intérêt. Mm-hmm. Puis voit arriver cette jeune femme magnifique. C'est assez fou pour lui et puis effectivement il va se sentir trahi,
il va découvrir qu'il y a une sorte de vice de forme, en tout cas que tout n'a pas été dit.
Oui,
et il y a un rapport à la trahison, à l'humiliation qui est aussi importante.
Absolument,
chez ces personnages,
absolument.
Hein.
C'est ça surtout, c'est pas tant cette particularité, en fait, cette différence, c'est plutôt effectivement cette trahison, le fait qu'on n'est absolument pas prévenu, et il va y avoir une grosse résistance, hein, de sa part. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une femme tellement lumineuse, quoi. Même s'il essaie de la rejeter le plus possible, avec des mots très durs, ça glisse sur elle, quoi. Elle est très solaire et elle va réveiller son désir, quoi.
Et elle rêve d'un amour sans concession. C'est un être d'amour, en fait, cette Rosalie, qui est obligée de se raser le visage tous les matins, de cacher les poils qu'elle a sur le corps, parce que le poil, ça renvoie à une forme de quoi, de bestialité, d'animalité. Je sais pas comment vous l'avez envisagé, vous, de vous plonger dans ce personnage qui est inspiré de Clémentine Delay, je crois en partie, pas que, mais
ouais, c'était inspiré. Je crois que Stéphanie Di Giusto voulait vraiment se centrer sur l'histoire d'amour, et comme Clémentine Delay, elle parlait très peu de son mari, d'ailleurs. C'était l'idée, enfin, c'est la photo de Clémentine Delay qui l'a inspirée. Moi, j'avais sa photo et je trouve qu'elle a quelque chose tellement, tellement moderne pour l'époque. Ouais. Elle était dans les Vosges. La seule chose qu'elle a vraiment en commun avec Rosalie, c'est qu'elle tenait un café. Et ensuite, Rosalie, du coup, s'en détache et. Mais elle garde, enfin voilà, c'est un personnage que je trouve tellement solaire, plein de courage, jamais victime, ouais. Et qui va en fait se donner la chance d'être libre par le corps, en assumant qui elle est, en comprenant en fait que sa féminité à elle, c'est avec la barbe, et même si elle est confrontée, voilà, au rejet, parce que on est dans une communauté, un petit village, fin 19e siècle.
Avec des rapports de force, avec des rapports de domination, oui. Avec...
Oui. Bon, elle est beaucoup plus jolie que cette femme, quand même. Elle est plus féminine.
Elle est beaucoup plus jolie, et puis c'est vrai que vous apportez ça, Nadia, une tendresse directe avec ce personnage qui ne fait qu'aimer alors qu'elle est rejetée, qui va finir par conquérir d'une certaine façon. On a l'impression de venir briser un peu l'armure de cet homme un peu énigmatique.
Bah, elle va poser des actes.
Pas grand chose.
Oui, c'est ça, mais elle pose des actes d'amour pour, ouais, aider cet homme, et il va commencer à l'aimer au-delà des apparences. Quoi,
et c'est l'amour vrai, finalement. On va réussir à percer un petit peu ce mystère-là de l'amour vrai. C'est Rosalie, c'est en salle demain. C'est un très beau film qui vous réunit avec un beau casting. On va continuer d'en parler ensemble sur France Inter, tout de suite dans la bande originale. C'est Lisa Delmoitier. Oui, Lisa. Lisa, vous n'auriez pas fait ce film comme ça ?
Mais non.
Ah non.
Non. Mais je me sens nulle, en fait. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les femmes qui assument leur poil, mais moi, j'ose pas. J'ose pas. J'ai compris que j'étais pas une icône féministe le jour où je me suis retrouvée à plat ventre en train de me faire épiler l'arrêt du cul au sabre laser. Ça a une autre gueule, hein, Star Wars dans la vraie vie, vraiment. Oui, j'ai honte, mais le patriarcat a eu raison de mon cibre interfessier. Je suis vraiment pas aussi courageuse que celle qui s'épile pas. Bon, après, mes potes qui se rasent pas, elles se distribuent des médailles de la féministe de l'année, mais elles ont 3 poils blancs sur les cuisses. Moi, quand vient la saison des sandales, je dois me raser les orteils quand même. On est sur un autre niveau de lutte, si je peux me permettre. C'est facile d'être une fémène quand t'as des grenichons et une pilosité de norvégienne sous chimio.
Oh non.
Mais moi, je suis à moitié italienne et j'ai un dérèglement hormonal. Donc, pardon si quand je veux convaincre un mec de me baiser, j'ai encore le réflexe patriarcal de m'épiler les phalanges. Voilà. Mea culpa pour la lutte. Oui, moi j'ai un syndrome des ovaires polykystiques. Ça veut dire que j'ai trop d'hormones masculines. Ah, donc résultat, moi si je prends pas la pilule, j'ai trop de poils. Je prends du muscle facilement, je me gratte les couilles et je commence à me dire que la place des femmes, est-ce que c'est pas dans la cuisine finalement.
Oh là là.
Donc j'ai beaucoup de sympathie pour votre personnage de femme à barbe, Nadia. Après je dirais pas jusqu'à dire que j'ai une barbe, mais moi tous les mois j'ai un seul poil de barbe qui apparaît et je le guette, mais je le vois jamais arriver. Il est pas là, bim, il fait 5 cm. Je vous jure, je le jette par la fenêtre, il y a un prince qui grimpe, quoi.
Comme les bébés pigeons.
Puis exactement, quoi. Puis bon, après, le prince comprend que c'est pas une tresse qu'il a grimpé, mais à ma moustache. Alors il redescend. Oula non, ciao Frida Kahlo, non merci.
Oh non.
Les hommes se rendent pas compte du temps qu'on passe à se retirer les poils. Hein. Vraiment, dans ma vie, si tu rassembles les heures que j'ai perdues à m'épiler, mais j'aurais eu le temps de faire un master, quoi. C'est pas très réaliste vu ce que je fais de mon temps libre. J'aurais eu le temps de finir TikTok. Moi, j'ai tout testé. Le rasoir, la crème dépilatoire, l'épilation à la cire, l'épilation au sucre même.
Oui, oui.
Mais enfin, du sucre sur les parties intimes. J'ai failli tuer un diabétique qui me faisait un cuni. Il y a du sucre. Mais votre personnage, Nadia, elle trouve le courage d'accepter ses poils, même si ça prend du temps hein, au début. Donc elle le cache à votre personnage, Benoît Magimel, jusqu'à ce que vous soyez mariés. C'est pour éviter ce genre de mauvaise surprise que je conseille toujours de coucher le premier soir, Benoît. Hein, avant le mariage, en tout cas, faut savoir à qui t'as affaire. Enfin, je suis désolée, mais on n'achète pas un chat dans un sac et on commande pas de pièces montées avant de se faire démonter. C'est le béaba. Moi-même, je me cache. Hein, c'est vrai. Par exemple, moi, je ne reste pas dormir le premier soir. Hein, par exemple, le mec se dit, oh, la peur de puer de la gueule au réveil. Oh, chérie. Si moi, au réveil, j'ai peur de piquer. Voilà. C'est terrible de voir cacher qui on est pour être aimé. Hein, se raser, se maquiller. Sur Internet, il y a des vrais mecs qui conseillent, pour voir la meuf sans maquillage, d'organiser les premiers rendez-vous à la piscine.
Mais non.
Les bâtards, le fond de teint, c'est mon arme secrète. Moi, je suis la meuf qui baise en levrette juste pour pouvoir me repoudrer le nez discrètement. Mais Nadia, vous me donnez envie de m'assumer. Il y a plein de façons d'être une femme. Alors cet été, quand on me demandera si j'ai pas trop chaud avec mes Birkenstock à poils longs, je répondrai fièrement non, c'est juste mes orteils et leur barbe.
Bravo, Lisa. Et Lisa, on te retrouve, Lisa Delmoitié, tous les jeudis à la Nouvelle Scène. Et ce mercredi, demain, en salle Rosalie, le film de Stéphanie Digiusso qui vous réunit tous les deux, avec notamment au casting Benjamin Biolay, qui n'a pas le plus beau rôle dans l'histoire. Guillaume Gouix, qui est d'un mystère assez fort et étonnant. Il est très inquiétant comme personnage aussi. Gustave Kervern, je l'ai dit. Anna Biolay, Juliette Armanet aussi, qui fait un peu ses grands début sur grand écran, et Serge Bozon, qui fait aussi partie du casting, un très beau casting réuni par Stéphanie Digiusto, avec cette histoire d'amour qui interroge sur le rapport au désir. Est-ce qu'on est désirable quand on est un peu différent, on est hors norme? Est-ce qu'on est digne de désirer nous aussi, en fait? C'est les questions que soulève ce film.
Mais c'est vrai qu'on peut pas codifier le désir, et on est dans une société tellement normée que moi aussi ça m'a questionnée, ça a questionné ma féminité. Je me suis posé la question, pourquoi cette femme pourrait pas être désirable et qu'est-ce qui fait que je ressens moi aussi, parce que j'avais une sorte de mal-être en fait au début du tournage que j'ai combattu en parallèle de Rosalie, vu qu'on a tourné en plus dans l'ordre chronologique. Et au bout d'un moment, je commençais à me sentir mieux, à l'assumer, et puis au final, à être vraiment fière et heureuse de porter ce rôle. Parce qu'il y a
Qu'est-ce qui était perturbant au début?
Mais en fait, c'est pas anodin. C'est assez étrange. En plus, c'est une méthode très particulière. C'est du poil à poil, donc littéralement, ça me collait à la peau, quoi.
C'est des heures et des heures de préparation, j'imagine.
Oui, 4 heures tous les matins.
Et c'est un très beau boulot.
C'est magnifique, oui, c'est une artiste qui s'appelle Mélanie Gerbeau qui fait ça, qui est spécialiste, et donc ça donne une telle crédibilité qu'en fait, moi-même, en fait, j'avais aussi peur du regard des autres, je pensais être indépendante, et puis en plus je me disais, bah, c'est un rôle, évidemment.
Du coup, elle rasait, elle reprenait 4 heures.
C'est ça. Ouais. Et non, et en fait, en arrivant sur le plateau, même le regard de Benoît m'a en fait, son choc m'a choquée. Enfin,
oui.
Et j'avais peur de sa réaction, j'avais peur de la réaction d'Abel et Benoît, parce qu'il avait rien vu. En plus, c'était génial parce qu'on n'avait pas pu vraiment échanger.
Vous ne connaissiez pas vraiment, vous êtes dit bonjour une fois, je crois, rapidement, mais c'est tout en fait.
Ouais.
C'est tout.
Oui, absolument. Oui, c'était la volonté de la réalisatrice de faire en sorte de se croiser la première fois, comme dans le film. Et on a tourné dans cette chronologie. Et c'est vrai que c'est assez brutal, hein, la première fois que j'ai vu Nadia comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait de la résistance. Hein. C'est
donc
très
même dans votre, en tant que Benoît, en fait, parce que finalement, on se pose la question, est-ce qu'on peut être désiré dans le cas du personnage de Nadia? Mais est-ce que vous, dans le personnage que vous devez incarner, il y a un moment, il faut aussi y mettre une forme de désir?
Absolument, on essaie de s'identifier le plus possible pour se poser des questions. Et c'est vrai qu'il y avait de la résistance, mais elle a une telle féminité aussi que ça change beaucoup le regard. C'est vrai que j'insiste un peu, mais quand il y a des physiques un peu plus dures, c'est un peu plus délicat.
Si c'était une actrice moche, c'est ça.
Oui, parce que c'est vrai que les gravures qui sont représentées souvent, je crois que sont représentées avec des visages d'hommes quasiment.
Ouais, ouais, ouais.
Mais Nadia, elle a une grâce et on finit. Puis surtout les actes qu'elle pose, quoi, c'est vraiment ça, quoi.
D'ailleurs, dans le film, un des personnages lui dit : mais vous êtes belle, Rosalie. Et c'est vrai que quand on voit le film, on s'habitue. Et c'est-à-dire que ça crée une nouvelle beauté, une nouvelle forme de beauté, puisqu'elle assume sa barbe, elle assume de montrer, et parce qu'on va raconter un tout petit peu dans le film comment de ce secret elle va essayer justement pour sauver celui qu'elle aime. Elle va se mettre en scène dans ce café qui périclite et lui il a besoin d'argent, donc elle va commencer à recevoir les gens dans le café en portant sa barbe, tout simplement, en étant au naturel, considérant que c'est une sorte d'attraction qui fait venir du monde, et ça fonctionne. En fait, ça fonctionne. C'est par amour, en fait, qu'elle va à l'encontre de ce qu'on lui a demandé toute sa vie de cacher, comme une nature monstrueuse.
Oui, elle le fait par amour, et puis au départ, c'est purement du coup pour avoir de l'argent, et elle veut aider. Et à un moment donné, et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y a une sorte de déclic où elle comprend que c'est, en fait, le fait de porter cette barbe qu'elle pensait pas porter un jour, en fait, elle accède à sa vraie féminité. Et là naissent les désirs et les envies d'une femme qui arrive, et je trouvais ça beau, ça, parce que ça, elle a plein d'envies différentes, elle a des vrais désirs, pas ceux imaginés au début, qui sont des projections. Je me suis raconté qu'elle avait lu, je sais pas, Madame Bovary, tout ça, puis qu'elle s'est projetée dans qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'une mère. Et puis, en fait, en accédant à sa propre féminité, elle a ses vrais désirs qui viennent.
Il y a des très belles scènes dans la forêt, comme ça, parce que la forêt est aussi, dans le film, un espace de révélation, d'accès à soi, de liberté, en fait, et de rapport à la sensualité, à la sexualité, au désir, qu'on voit en pleine nature, qu'on voit dans un élan, comme ça, de vie, en fait, comme si elle reprenait vie.
Un cerf,
non, ça, c'était l'animal. Mais il y a d'autres scènes dans le film qui vont sûrement t'intéresser, j'en suis sûre.
Il y a l'air.
Oui, qui vont vraiment te passionner. Ça va être même tes scènes favorites.
J'y serai demain.
Voilà, tu seras demain. Tu seras demain au rendez-vous. C'est une belle façon, non, d'attirer du spectateur en salle, Nadia Tereskevitch. Et donc, c'est aussi ce contraste entre vos deux personnages qui doivent, malgré tout, avancer ensemble, Benoît.
Oui, avancer ensemble, c'est-à-dire se connecter, quoi, réussir à... Elle va le chercher, quoi. Elle y va. Elle est décidée, elle sait ce qu'elle veut. Mmh. Et elle n'a de cesse d'aller le brutaliser un peu, quoi. De réveiller ce désir, d'aller le... Elle le trouble totalement, quoi.
Et on ne sait pas grand-chose de lui, d'ailleurs. On sait simplement qu'il est meurtri dans sa chair, dans son cœur.
Je pense qu'il se voit comme un animal aussi. Il a peur pour elle qu'elle soit une attraction. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a été élevé, cette femme, dans une foire. Mm-hmm. Elle est entourée d'amour. Elle a eu un père qui s'en est bien occupé. Donc, elle est une jeune fille comme les autres, quoi.
Ouais.
Et lui est un homme détruit, quoi. C'est plus le même. Il est parti, il revient de la guerre. Il porte une espèce de harnais en cuir. c'est une sorte de masque comme ça, et ça, oui, il se voit comme un animal blessé.
Il y a une forme de violence aussi dans son personnage, quelque chose de rentré.
Il y a de la violence, il y a de l'amour.
Il y a de l'amour, c'est à Eros et Thanatos, on est parti, quoi. On
oui,
est parti.
Non, c'est très.
Mais c'est un personnage.
Moi, j'étais
quand
très
même tendre.
Ému à la lecture, quoi. C'est, bien sûr qu'il est tendre, et il a beaucoup d'affection pour elle, mais en même temps, il. Vous savez, c'est quelqu'un qui a été abusé, certainement, et donc il se protège énormément aussi. Et il est désarçonné face à elle, quoi. Mmh. Cette jeunesse qu'elle a, c'est ce désir qu'elle a pour lui, c'est quelque chose de déroutant, quoi.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à la première lecture du scénario, Nadia ?
Moi, j'étais vraiment touchée par l'histoire d'amour. J'ai presque oublié, en fait, qu'il y avait la barbe. Parce que, on lit. En plus, c'est écrit de manière, Stéphanie, elle écrit d'une façon très littéraire. Donc, on a l'impression de plonger dans un roman, quoi. Et j'ai trouvé ça beau. Je trouvais que c'est un magnifique portrait de femme. Que c'est un grand destin. Il y a quelque chose de romanesque qui me touche. Et je trouvais qu'aussi, il y a beaucoup de résonance actuelle et ça parle, elle questionne le genre, enfin elle casse les codes du genre, elle met une sensualité ou un désir là où on s'y attend peut-être pas et elle bouscule un peu toutes les normes. Et aujourd'hui on est quand même dans une société tellement codifiée où avec les réseaux sociaux ça devient une quête de perfection permanente, même si évidemment à côté de ça il y a une valorisation des différences, mais il y a ce truc là de
c'est double discours, on valorise les corps différents et en même temps on ne montre que des corps refaits,
voilà,
retouchés.
C'est ça. Et aussi, il y a la question du lynchage. C'est-à-dire qu'elle représente aussi le rejet que quelqu'un peut subir de la part d'une communauté. Et aujourd'hui, avec les millions de personnes sur les réseaux, le lynchage est d'autant plus violent. Et donc, je trouvais que, voilà, elle avait quelque chose de elle résonne. Et en plus, je trouve que quand on se projette dans le 19e siècle, c'est plus simple de questionner notre époque. Parce que la distance permet de nous ramener aujourd'hui.
Ouais. Alexis, Laurent Signol.
Est-ce que vous êtes mis un petit peu à la place des hommes qui manquent de barbe et qui auraient pu être jeunes en voyant le film ?
Benoît a une réponse.
Oui, moi j'ai demandé si on pensait à porter la barbe, si mon personnage devait l'avoir, mais j'ai eu peur de m'accrocher. Et je pense qu'il a fallu jouer plutôt l'homme imberbe.
Finalement, chaque personnage a sa barbe, en fait. Chacun a sa différence, chacun a son isolement, chacun a son sentiment d'exclusion, en réalité.
Oui, c'est ça, parce que cette barbe, finalement, ça peut être la couleur de la peau, ça peut être autre chose. Et c'est pas ça, c'est surtout, encore une fois, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le désir. Et on se rend compte que finalement, aimer au-delà des apparences, c'est ça. Et le problème, c'est tout ce qui entoure. C'est vrai que cette société, elle ne te permet pas d'aimer simplement. Elle te questionne trop, quoi.
C'est ça, elle renvoie un regard toujours un peu questionnant, un peu inquiétant. Tout ça dans un très beau cadre avec, je salue, non seulement le travail de réalisatrice de Stéphanie Di Giusto, je le dis mal depuis le départ, pardon, je me suis corrigée, on m'a alerté, on m'a fait des gros signes. Vous auriez dû, je déteste amputer les noms comme ça. Il y a un très beau travail de photographie, il y a un très beau travail de mise en scène, et puis la musique aussi qui participe à tout ça. Toujours un peu dans ce sentiment d'un conte, hein, quelque chose d'onirique et en réalité qui se confronte à un réel qui est douloureux, qui n'est pas si tendre que ça. C'est un monde ouvrier aussi à côté, un monde qui survit, un grand patron incarné par Benjamin Biolay qui a aussi son mot à dire dans la communauté religieuse. Oui. Parce que c'est aussi ça.
Il incarne le patriarcat, cet homme. Ah, c'est très beau, hein. J'ai pas vu le film.
Non, c'est vrai, bon.
Il est pas mal, hein.
Il a été, on l'a vu à Cannes.
Hein, ouais, on l'a vu à Cannes.
Il a été présenté à Cannes.
Moi, je l'ai pas vu depuis Cannes.
C'est vrai. Donc, oui, il y a aussi cette force masculine en opposition qui est là dès le début, d'ailleurs, du film La chasse à cour. Cet animal traqué, à la tête de cette chasse à cour, c'est le personnage de Benjamin Biolay. Donc, symboliquement, on a tous les éléments qui sont mis en place.
Oui, vous avez raison.
Merci.
Vous voulez entendre.
Et ben voilà, et ben pour toutes ces bonnes raisons, allez voir Rosalie, c'est en salle dès demain. Ce film de Stéphanie Di Giusto avec nos invités Nadia Tereskevitch et Benoît Magimel est tout de suite dans la bande originale. Et ben c'est qui ? Ben c'est Fanny Ruet. Ah bah oui. Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour, j'ai pas écrit de chronique.
Comment ça?
Bah non, en fait j'ai pas travaillé parce qu'il faisait soleil.
Ah là là.
Et j'aime bien le soleil, donc voilà. Allez, attends, ça va?
Oui, bah, ça va un peu moins là.
Ouais, mais en vrai je trouve on mériterait de pas bosser dans ces cas-là. En vrai, je trouve on mériterait. Genre les étudiants pendant l'été ils ont les congés scolaires, vas-y nous on fait les congés solaires. Voilà, dès qu'il fait plus de 22 degrés, terminé, bonsoir, vacances de tournesol.
Super.
Voilà, c'est la moindre des choses. Il faut en profiter maintenant, hein, parce que là on est dans les dernières années où c'est agréable qu'il fasse chaud. Là je crois qu'on est au moment, comme quand le homard il rentre dans la casserole et il se dit pop pop pop, soirée jacuzzi. C'est sûr, c'est les derniers moments de kiff en vrai. Jean-Claude Van Damme il nous dit ouais, faut profiter de l'eau, bientôt il n'y en aura plus. Ouais, bah faut profiter du soleil, bientôt il y en aura trop. Donc voilà, j'ai pas taffé. Voilà, parce qu'il
faisait
beau.
Bon, bah comment on fait?
Oh, d'habitude non plus. Hein. D'un autre côté, je me dis peut-être que je me cherche juste des excuses pour rien foutre. Parce que en hiver, je me dis ouais, flemme, il fait froid, c'est cafard et tout. Moi, je veux pas vivre dans un monde où le soleil il se couche avant moi. Parce qu'après, le lit est trop chaud et tout. Au printemps, je me dis, ouais, il fait beau, j'ai pas envie de bosser, parce que c'est le retour du beau temps et tout. C'est la saison où on met des petits crop tops, alors qu'il n'y a pas encore le summer body. Du coup, pour apprendre à les aimer, j'appelle plus ça des bourrelets, j'appelle ça des rouleaux de printemps.
Oh là, c'est mignon.
Allez, à table, mais plus. L'été, je me dis, ouais, ben moi, je veux bien travailler, mais tout le monde est hors du bureau. Donc, je sais pas avancer, tout simplement. Et l'automne, là, ben là, c'est... Je prends mes vacances. Donc voilà, c'est hors saison, il n'y a pas d'enfants, on préfère. Mais donc peut-être le problème, c'est pas le temps, c'est moi.
C'est tout
je crois que je vais très mal. Top. Mais c'est fou, je trouve, à quel point on change dès qu'il fait beau. Dès qu'il fait plus de 22 degrés, ma personnalité, elle change. Voilà, moi, je me lance dans des nouvelles activités qui n'ont aucun sens. Il y a quelques semaines, j'étais là, vas-y, menuiserie. Menuiserie. Mais c'est compliqué de faire ça quand on est adulte. Parce que tu peux plus juste avoir une lubie. Parce que dès que tu fais un truc qui sort un peu tes habitudes, tes potes, ils sont là, popopo, excuse-nous, j'ai péto. Voilà. C'est nul. C'est nul. Quand on était petit, on pouvait, à 5 ans, tu pouvais dire, ouais, vas-y, je vais faire du tir à l'arc. Si tu fais ça à 30, déjà, t'es plus saut. Et puis, ton entourage, il pense que tu fais un petit breakdown, en vrai. Et en même temps, je comprends, à 30 ans, t'as déjà le grenier rempli de tes lubies d'avant, en vrai. D'ailleurs, moi, j'ai peur que si un jour j'ai des enfants, ce soit juste une phase. Comme quand j'ai fait deux cours de crossfit.
Non.
Même temps, un enfant, c'est très similaire au crossfit. Hein. Ça te dégomme le corps et les gens qui en font, ils veulent tout le temps en parler. C'est insupportable. Ah, donc, si j'ai des enfants, il y a des chances qu'au bout de 3 mois, je suis là. Allez, hop là, au grenier avec la guitare et les palmes. Pauvre petit Logan.
Oh non.
Et donc dès qu'il fait beau, je suis là, ok, nouvelle lubie et tout. L'autre jour, ma copine, elle a vidé les poches d'un de mes jeans avant de me le voler, voilà, parce que c'est ce qu'elle fait. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, parce qu'au début de la relation, tu dis, mais oui, bien sûr, on fait la même temps, il prend mes vêtements, ce serait bête de profiter, putain. Et puis un jour, qu'est-ce que fais? Tu cherches ton jeans préféré, il est pas dans l'armoire où tu l'avais laissé, et donc tu te retrouves à envoyer un message à ta meuf en lui disant, est-ce que tu pourrais vérifier si mon jeans n'est pas sur ton cul? Voilà. Parfois, je me demande si elle m'aime pour qui je suis ou juste parce qu'on mesure pareil. Voilà. Mais bon. Mais donc voilà, l'autre jour, elle vidait mes poches et elle trouve quoi ? Une carte de visite pour une formation d'ébénisterie.
Ah, voilà.
Et elle vient me voir en mode, c'est quoi ça? J'étais là, tu sais pas lire. Mais, mais vraiment, j'assumais pas. J'avais l'impression d'être une ado qui se fait gauler en train de regarder du porno, quoi. Vraiment, j'ai paniqué. Je lui ai dit que je la trompais avec un ébéniste. Voilà. Oh. Tout simplement. Je préfère qu'elle me croie infidèle plutôt qu'instable. Maintenant, elle pense qu'à chaque fois que je couche avec le gars, je crie, je touche du bois. Donc voilà.
Oh non.
Ah, les poutres.
Non,
allez.
Non, pardon.
Mais c'est pas mal. C'est pas ma faute. À chaque fois que les températures elles grimpent, j'ai une nouvelle personnalité de rebond. Ouais. Voilà. Donc heureusement que je bosse dans l'artistique, parce que nous on peut faire n'importe quoi assez régulièrement. Voilà, ce que les gens appellent crise de la quarantaine, pour nous c'est juste un nouveau projet concert. Voilà. Si David Bowie il avait pas fait de musique, ses potes ils auraient été moins conciliants. C'est là, oui David, on va t'appeler Ziggy. Arrête de te dessiner des éclairs sur la gueule en pleine réunion, ma puce. Allez. Non, donc, les gens qui bossent dans des métiers classiques, ils peuvent pas faire ça. Si ton comptable il change de look à chaque bilan, c'est bizarre. Hein, chaque fois que tu l'appelles, il est là, nouveau projet, nouveau nom, appelle-moi Tableau Picasso. Allez, non.
Tableau Picasso.
Ou bien Tupac Toll. Allez. Finance Zimmer. Allez. Wiz Khalifa. Stop. Allez. Gourmet mais pas gourmand. Voilà. J'ai pas écrit de chute parce qu'il faisait soleil.
Ah oui, d'accord. Merci. Eh bien, Fanny Ruet, le vendredi et samedi, tu seras à Troyes. Et en octobre 2024, à Paris, aux Zèbres de Belleville, il faut réserver ses places dès maintenant, ça part très vite, bien sûr. Et Rosalie, au cinéma, ce film de Stéphanie Di Giusto, avec une superbe musique aussi. Là, c'est Ludovico Einaudi, mais les musiques originales sont signées Anya Rani et c'est sublime, absolument sublime. On est dans des ambiances comme ça. C'est un peu douloureux de parler dessus, mais...
Bon, je peux le faire. Hein.
Merci Jérémy, on a besoin de rien quand tu es là. C'est ça qui est bien, c'est super. C'est super, on va s'intéresser aux musiques que vous écoutez dans votre vie. Et on commence votre bande originale par l'année 2000. Vous écoutiez Nadia. Vous choisissez Björk pour illustrer ces années-là où vous êtes toute petite, en fait.
Ouais.
Ouais, pourquoi Björk ?
Mon père me faisait écouter Björk énormément, donc je crois que c'est une des premières femmes que j'ai écoutées, et je dansais dessus toute ma petite enfance, ouais, et adolescence. Ouais.
Et vous faites beaucoup de danse, justement. On parle toujours de vos débuts artistiques par la danse, avec vraiment un rythme très, très fort. C'est pas juste de la danse plaisir une fois par semaine.
Ouais, non, j'ai vraiment fait un danse-étude, donc c'était du matin au soir pendant 14 ans.
Ouais, ouais, avec, ouais, envie, avec joie.
Bah, en fait, ça définissait toute mon identité, ouais, donc je voulais vraiment en faire mon métier, et ça m'a beaucoup nourrie parce que ça apporte plein de choses, même si c'est aussi très difficile, quoi.
Ouais, et on le voit dans le rôle de Rosalie, puisqu'on vous voit danser aussi dans ce rôle, dans cette performance-là. Quand vous parlez de votre enfance, vous parlez de la langue finnoise, qui est votre langue maternelle, au point de penser vos émotions en finnois, encore aujourd'hui ?
Ouais, c'est ma langue émotionnelle, ouais, c'est ma langue de foi, c'est ma langue maternelle, au sens vraiment lié à la petite enfance, mm-hmm, et je pense qu'on est très lié à ça, donc c'est très... J'ai vraiment ce bilinguisme, le français, la langue rationnelle. Et...
Rationnelle, d'accord, ouais, oui, c'est la pensée sérieuse, posée.
Ouais, c'est ça, et le finnois, d'ailleurs, dans Rosalie, à un moment donné, elle doit prier, et ouais, j'ai demandé à Stéphanie de prier en finnois pour être plus incarnée. Et après, on a fait de la post-synchro.
Ah, ça, vous le saviez, ça,
Pas du tout. Ouais. Ça donne quoi, le finnois ?
Hein ?
Non, ça donne quoi, comme...
Ouais, Mathé, elle a mis ma voix en sanois. Mota, menka, vaka, elokovate, atterri.
Elle vient de tous nous insulter.
C'est ça, on ne saura jamais ce que Nadia a pu raconter à ce micro. Et puis voilà, vous avez face à vous quelqu'un qui a réfléchi en finnois, Benoît, pendant les scènes, en réalité.
Je ne connais pas tout.
Voilà, vous ne saviez pas tout d'elle encore. Non. Dans ces mêmes années, Benoît, vous écoutiez. Dr. Dre, Snoop Dogg.
Oui, c'est la sortie de l'album, ouais, 2001. Ouais.
Pourquoi cette musique ?
Parce que on l'écoutait beaucoup. C'est vrai que c'était un peu une claque dans le paysage.
Vous dansiez dessus ?
Rap côte ouest.
Vous dansiez dessus ?
Je faisais des graffitis dessus, je crois.
Ah,
ah ouais ? Ah non, mais j'aimais bien.
Je crois que vous continuez, vous aimez toujours la peinture, vous aimez les...
Hein, ouais, j'aime bien. Ouais.
Vous peignez sur le tournage aussi.
Ah, vous peignez sur le tournage ?
Ouais, il peignait sur le tournage.
Et quel genre de...
On peut... Non. Bah, c'est...
Qu'est-ce que ça donne, la peinture ?
Je sais pas. Ouais, vous savez, je...
Vous peignez en quelle langue ?
Ouais, c'est ça, c'est la bonne question.
Je suis vraiment désolé.
C'est vachement bien. C'est
affligeant.
D'habitude, il y en a qui, mais là, vous
assumez
tous les clowns.
Non, vous assumez pas assez pour en parler,
ouais.
On en reparlera peut-être tout à l'heure. Peut-être que vous assumeriez plus dans une demi-heure. Quoi.
Vous venez avec quelqu'un qui assume sa barbe, vous pourriez quand même assumer ça.
En tout cas, on parle du Festival de Cannes, puisque cette année-là, vous êtes récompensé à Cannes pour votre rôle dans La Pianiste de Haneke. Donc, il y a une montée des marches, il y a un moment fort dans une vie d'acteur. Vous êtes hyper jeune, en plus.
Oui, absolument.
Quand vous recevez le prix.
Et puis je suis extrêmement ému, et en même temps je me dis, mais il y a des mecs qui ont eu le prix d'interprétation à Cannes qu'on n'a jamais pu vu après.
Ah, vous pensez à ça tout de suite ?
Ouais, je me dis, c'est pas une, c'est voilà, en fait rien n'est garanti, ouais. Et c'est un encouragement, mais il y avait Mila Jovovic qui venait de me remettre le prix, qui me disait, mais t'as pas l'air content. Je disais, je suis ravi, mais et puis le soir on rentre dans sa chambre d'hôtel tout seul avec son prix, puis on se dit bon. Vous voyez, c'est un peu énorme, en fait. Ça arrive tôt. Et,
parce que nous, on imagine que tout d'un coup, la soirée, elle est forcément merveilleuse, que c'est au bout de la nuit et que voilà.
J'ai vécu ça un peu seul, je vous avoue. Ouais. Et puis le lendemain, je suis parti au Japon faire une promotion. Et puis quand je suis revenu,
On parlait plus du.
On parlait plus de ça, mais. Non, c'est. Puis on m'a cambriolé, puis on m'a volé le prix, donc.
Ah oui.
Vous voyez, j'en garde un très mauvais souvenir, en fait. D'ailleurs, je passe un petit mot à Chopard, si.
Ils veulent refaire le prix.
Oui, oui. Non, c'était un moment extraordinaire. Franchement, c'est une émotion assez rare. Et puis, il y avait un parterre de personnalités du cinéma. C'était fou, quoi.
Est-ce qu'on en garde quelque chose quand on est acteur comme vous et que vous expliquez souvent dans les interviews que vous avez besoin d'aller puiser dans des émotions que vous avez déjà traversées pour essayer de les restituer? Est-ce que celle-ci, elle peut être convoquée chez vous quand vous jouez?
C'est assez étrange. Vous voyez, vous êtes sur un petit nuage comme ça, puis ça passe, vous vous rendez compte de rien, vous dites des mots sans savoir ce que vous dites. C'était trop abstrait pour moi. Trop abstrait, mais je suis rentré avec beaucoup de fierté. Quoi.
En plus, un film que vous avez failli ne pas faire, on avait déjà raconté à ce micro que
possible, ouais.
Une scène de nu. Oui. Enfin, une scène de nu, c'est plus qu'une scène de nu.
Non, le réalisateur voulait simplement filmer l'humiliation masculine. Voilà, ouais. Avec Isabelle Huppert dans une séquence. Et je lui avais dit.
On voyait un sexe masculin, en fait, qui.
Qui déborde.
Voilà.
Ouais, et je sais pas faire.
Oui, ça.
je lui ai dit, je sais pas faire. Elle me dit, on va prendre une doublure, Benoît.
Une doublure que vous avez choisie, d'ailleurs.
Ouais, j'ai choisi la doublure. Bah oui.
On choisit toujours les doublures.
Mais bon, il l'a pas monté. En fait, ouais. Le pari, c'était de dire qu'il ne le montrait pas. Parce que tout était suggéré dans le film. Et il n'a pas monté. Il s'est accroché jusqu'au dernier moment, quoi. C'était pas très beau, je crois.
Ouais, en plus.
C'est pas très, très.
Donc ça aurait été dommage de refuser le rôle, en plus.
Mais tout le monde me disait que t'es fou. Et... Mais c'est toujours l'entourage qui fête le prix à votre place, quoi.
C'est vrai, ah oui.
Les récompenses comme ça, très jeunes, on ne sait pas quoi en faire, c'est extraordinaire, mais en même temps, la vie, elle continue. Les films, on a d'autres films, et puis ça avance. Donc on ne sait pas quoi en faire, quoi. C'est juste une satisfaction, mais. Je sais pas, ça a plus de valeur que. Je dirais que les Césars que j'ai eus là ces dernières années ont été peut-être plus forts. Quoi.
Vous avez plus réalisé aussi peut-être, j'imagine ce qui se passait pour vous. Ça vient couronner aussi des années de travail.
Il y a une carrière.
Oui, il y a une carrière.
Ouais, c'est ça.
Absolument.
C'est ça.
Dans les années 2010, Nadia, vous écoutiez. Sometimes I flow staccato, trip you up vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Wax Taylor.
Ah ouais, j'étais trop fan, j'ai vivé en concert plein de fois, j'avais 11 ans.
C'est vrai, 11 ans?
Ouais, mon père
c'est
de nouveau m'a emmené. Ouais, c'est mon père qui me.
Vous alliez très jeune au spectacle depuis toujours?
Ouais, j'y allais beaucoup. En fait, j'allais voir que de la danse et de la musique, beaucoup de concerts. Et en fait, le théâtre, j'ai découvert bien plus tard et le cinéma bien plus tard.
Et vous faites votre première montée des marches à Cannes, justement, on en parlait, en 2010.
Pas une montée des marches. Je faisais de la figuration en tutu sur les marches. Et c'était pour la montée d'Antéchrist. Et William Defoe m'avait demandé si j'ai le droit de parler. Et je pouvais pas répondre. Et voilà, il a continué à monter. Et comme c'était le méchant dans Spider-Man, je me sens que ça m'a bien marqué. Mais voilà, oui, j'ai tenu comme ça, sans bouger, avec un tutu. Voilà, je sais pas. C'était un moment assez.
Premier étrange. Contact avec Cannes.
Voilà, exactement.
Avec le cinéma. On raconte aussi que votre prénom, Nadia, vient d'un film où vous avez assisté aussi à la montée des marches de ce film, de Soleil Trompeur 2, je crois que c'est ça.
Ouais, mon père avait. J'ai pu assister aux deux et mes parents m'ont donné ce prénom par rapport au 1.
Au personnage.
Elle s'appelle Nadia et elle est toute petite. Et voilà.
C'est votre histoire, ouais. C'est votre histoire liée au cinéma, déjà. Il y a quand même déjà un petit chemin qui se dessine, déjà, dès la naissance. Bon, peut-être. Enfin, en tout cas, là, rétrospectivement, ça fait sens. Aux mêmes années, Benoît, 2010, vous écoutiez.
Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande. Ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras.
Vous aimez chanter, Benoît ?
J'adore chanter Aznavour. Je pensais que j'avais le talent de le faire. Et puis, ça marche sous la douche. Et pas devant un micro.
Mais la douche, c'est un espace magique. Il faut le savoir, la douche, c'est un espace magique.
La douche,
juste...
ça rend les choses
folles.
Complètement incroyables. Quoi.
Ouais.
On se dit, là, je suis prêt. Je vais chanter, je vais faire un truc dans le cinéma, là, c'est sûr. Et puis, c'est une autre chose quand on est devant le micro. Non, c'est là une chanson, ça s'appelle À sa fille. C'est un très beau. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un sample qu'a utilisé Dr. Dre, la basse de cette chanson.
Tom, tom, tom.
C'est étonnant. Hein. Et voilà, Aznavour.
Aznavour,
avec
culte.
Qui j'ai travaillé quand j'avais 16 ans.
Vous avez fait quoi avec lui?
J'avais fait un film qui est passé un peu inaperçu. Je ne me souviens plus du nom là tout de suite.
Ah, c'était pour ça.
Les années campagne, voilà, avec Françoise Arnoux. Et il jouait mon grand-père, et ça a été extraordinaire de travailler avec cet homme, quoi. C'était quelqu'un de je sais pas, une puissance incroyable, et puis un sens du travail. Un artisan, vraiment, sa façon de d'écrire, c'était quelqu'un de... Je me souviens, ma première nomination pour l'Espoir au César, vous savez, il y a un dîner au Fouquet's.
On n'a pas un parrain, c'est ça?
Non, c'est pas ça, c'est que j'arrive au Fouquet's, j'ai pas reçu de prix, et il y a Aznavour qui est à une table avec 15 personnes, il y a énormément de monde, et il s'est levé, il a fait le tour de la table, et il est venu me serrer la main. Oui, et quand on a 19 ans, c'est pas mal. Quoi.
J'avoue.
Et voilà, c'est un grand monsieur.
C'est Tahar Rahim qui va l'incarner bientôt sur grand écran. Hâte de découvrir la vie du grand Charles sous les traits de Tahar Rahim. À cette époque-là, Benoît, on vous retrouve dans Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, que vous avez connu quelques années avant sur un téléfilm. C'est entré dans une bande aussi, accepté d'aller tourner dans Les Petits Mouchoirs, parce que c'est un peu comme ça qu'elle apparaît avec le temps.
Oui, c'est vrai que je me sentais un peu une pièce rapportée. Ouais. Je connaissais tous très bien. Ouais. Et c'était assez étonnant comme succès.
Vous êtes un solitaire, vous, Benoît Magimel, dans le monde du cinéma, ou vous êtes un homme de troupe aussi?
J'ai pensé que... j'avais toujours peur des familles, parce que les familles, ça vous isole des autres, quoi. Donc j'avais plus envie d'être un électron libre, quoi. Ouais. Et puis qu'on n'en sache pas trop sur moi, parce que comme ça, on peut y plaquer le plus de choses possible.
C'est important encore, ouais, ça, de garder ce mystère, cette distance.
Je pense que c'est comme le jeu, quoi. Vous savez, parfois, ça sert à rien d'appuyer des émotions que vous avez déjà à l'image. Et ça permet aux spectateurs de se projeter plus facilement. Et donc, je pense que c'est pareil pour les acteurs. Il faut pouvoir, si on passe son temps à rire, on va pas peut-être vous venir vous voir pour faire un drame, ou l'inverse, quoi, je sais pas.
Vous y pensez, ça, Nadia?
Non, mais j'apprends.
Je l'adore. Alors, on passe aux années 2016-2017. Nadia, vous écoutiez? Portishead, forcément. Voilà. Oh là. Et c'est la première rencontre avec Stéphanie Di Giusto.
Ouais.
À cette époque-là. C'est dans quel contexte?
C'était, j'avais passé un casting parce que j'étais en prépa, mais je faisais des clips de danse sur le côté. Et un jour, on m'a dit, mon agent de danse m'avait dit, là, il y a un casting pour un film. Et du coup, j'ai fait une petite silhouette danse dans La Danseuse. Et c'était un échappatoire dingue parce que je partais, j'avais 13 jours, mais étalé de septembre à décembre. Oui. Et du coup, j'avais une fois par semaine, je partais dans un château en Belgique, plongé dans le début 20e et observer des acteurs incroyables. Mais c'était purement un échappatoire qui me faisait rêver, en fait.
C'est quand même aussi là que vous réalisez, j'imagine, que ça peut être un endroit pour vous?
Bah en fait, non.
Non, toujours pas?
Non, non. Pas du tout. Je me projetais pas du tout parce que, comme je savais ce que...
Vous vouliez faire quoi à ce moment-là? Parce que vous faites Hippocampe, donc vous êtes...
Je voulais être prof de lettres.
Ouais.
Ouais. Non, vraiment, j'y pensais pas. Mais ça me faisait vraiment rêver. J'ai un souvenir comme c'est une sorte de souvenir émotionnel, de me dire, mais c'est un endroit où je me sens tellement bien, où il y a tout ce que j'aime ensemble. C'est avec l'œil fuller que je connaissais si bien, la danse, la littérature, le plaisir de raconter des histoires. Enfin, j'étais heureuse d'en faire partie, mais j'ai pas du tout projeté plus loin.
Et à quel moment, Et à quel moment vous vous dites en finnois, donc dans la tête, que vous allez prendre des cours pour devenir comédienne, ou pas?
Je l'ai fait un tout petit peu, mais sans l'assumer, parce que je savais avec la danse combien c'était dur, un métier artistique, et je me sentais pas légitime de prendre des cours aussi tard.
Ouais.
Mais j'ai tellement vu de pièces, en fait, en Cagnes, c'était fou, que j'ai quand même eu un goût pour le théâtre qui est né, et j'ai passé la classe libre du cours Florent, et quand je l'ai eu, je me suis dit, bon, je me donne un an pour essayer.
Et on vous a vu dans plein de petits films aussi, déjà. Moi, j'ai des souvenirs de vous dans des pubs de grandes marques, notamment une qui m'a fait beaucoup rire, c'est Roger Vivier.
Ah, vous l'avez vu?
Bien sûr, avec Catherine Deneuve.
Ouais.
Les petits chats, allez voir les miaou ou de
Nadia. Ça.
Mais j'adore. Ah, bien sûr, il faut aller voir en ligne.
Pas tout ça.
Ça, c'est sublime.
Moi aussi, j'en apprends beaucoup, alors.
Ah oui, vous pouvez, c'est, elle est irrésistible, comme toujours sur ce support-là ou sur autre chose. On passe à Benoît. Benoît, à cette époque-là, vous écoutiez?
Ah ouais.
Hans Zimmer.
Ouais. Tellement.
finance, Zimmer.
Il y avait une version de 20 heures. Et je la passais.
C'est vrai?
Je la mettais le matin. Et je
bonne humeur?
C'était extraordinaire. Voilà. C'est un Zimmer, c'est incroyable.
Ça vous met dans quel état?
C'est un voyage. Cette musique est un voyage et on passe par beaucoup d'états en fait. C'est vraiment. On se retrouve dans une bulle et ça soulève le cœur, ça soulève des émotions. Quand je dis que je la laissais passer plusieurs heures comme ça, c'est vrai que j'aimais bien peindre avec cette musique. Mm-hmm.
Vous voyez, on parle de plus en plus de peinture, on va y arriver.
Ouais. Et puis, c'est beaucoup d'émotions, je ne sais pas pourquoi. C'est des souvenirs de vie, quoi, en tout cas.
Oui. Et cette époque-là, c'est aussi La tête haute. La tête haute, c'est un film important dans votre filmographie, Benoît Magimel.
Oui, c'est la rencontre avec Emmanuel Bercot, mm-hmm. que je considère comme ma sœur, quoi, qui est quelqu'un d'important dans ma vie. Et voilà, et c'est vrai que. Non, mais je vais être ému, là, tout d'un coup. C'est cette musique qui me relance dans un état bizarre. En fait, je crois que j'avais pensé à une autre musique avec un sample de Portichet, en fait.
Ah oui?
Ouais.
Et bah, c'est Hans Zimmer qui
est. Moi, j'aurais pu mettre Hans Zimmer. J'ai tellement écouté Inception.
Vous obtenez le César du meilleur acteur, justement, dans un second rôle pour La tête haute. C'est une façon de voilà, j'ai l'impression qu'il y a une redécouverte de Benoît Magimel à cette époque-là. Et depuis, tous les films qui ont succédé ont été de grands films. Et à chaque fois, vous avez été récompensé, salué pour votre interprétation. C'est la rencontre d'Emmanuel Bercot. On parlait de famille tout à l'heure. Là, vous venez de parler d'elle comme d'une sœur. Donc,
vous la
recréez, cette famille.
C'est quelqu'un de très, très important. Ouais. Et moi, j'attendais la quarantaine quand j'étais môme. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, je pensais que la quarantaine, ça allait être quand même vachement intéressant.
Ouais. Et ben vous avez raison.
Et j'ai eu raison parce que tout s'est remarquablement enchaîné de manière extraordinaire. Quoi.
Carrément, c'est un bon encouragement pour tous ceux qui s'approchent là ou qui disent bientôt, faut pas renoncer. 40 ans, c'est bientôt 2022. Nadia, vous écoutez. Et impossible de dissocier maintenant cette musique du film de Valeria Boni Tedeschi.
Et pour ça, c'était vraiment la musique du film. On a tellement écouté que...
Les Amandiers.
Ouais.
Oui.
Où vous incarnez finalement Valeria.
Oui, je crois qu'en plus là, c'était sa musique fétiche à Valeria. Donc, elle nous l'a beaucoup fait écouter. C'était plus qu'un tournage, ça a été des mois et des mois de... J'ai fait l'école Valeria, quoi. On travaillait tous les jours... Je veux dire, pour une phrase de Sofia Egorovna dans le film, j'ai appris toute la pièce, quoi. Donc c'est vrai que c'était vraiment des mois incroyables aussi pour moi de recherche. Elle m'a ouvert quelque chose émotionnellement, en fait.
Ouais. Vous dites qu'il y a un avant et un après, clairement, aussi.
Oui, émotionnel, je pense. Ouais. Mmh. Sur le travail aussi de s'abandonner. Enfin, elle m'a emmenée vers ça, vers un... Un lâcher prise, voilà, elle disait toujours le ridicule est merveilleux et il faut avoir 42 de fièvre. Et en fait, ça m'a en fait donné vraiment envie de jouer. Ça m'a donné un désir fou.
Et vous êtes récompensée pour votre interprétation. César du meilleur espoir féminin pour votre rôle dans Les Amandiers. À la même époque, on est reparti avec Benoît, avec cette fois-ci, vous écoutiez. Et le voilà.
Le voilà, le soir. Ouais, c'est bon ça.
César du meilleur acteur.
Ouais.
De son vivant, Emmanuel Bercot.
Ouais, vous voyez. Incroyable.
Voilà, je sais pas combien il y en a de César sur ce plateau finalement. À bout d'eux, c'est pas mal.
Parce que nous, on en a pas en tout cas. Mon neveu, il s'appelle César.
Mais moi, j'ai cambriolé quelque chose et j'ai trouvé un César.
On est ravis.
J'en ai un.
Et allez donc voir au cinéma Rosalie, le nouveau film de Stéphanie Di Giusto avec nos invités Nadia Tereskevitch et Benoît Magimel, où il est question en effet de cette femme, de cette histoire d'amour entre cet homme blessé, un peu anéanti et en même temps tendre, et cette femme qui. Est libre, hein, qui assume de plus en plus sa liberté, même si le prix à payer peut être douloureux parfois. C'est une femme, voilà, qui est différente. On parlait d'hirsutisme, on parle de femme à barbe. Et pour en parler, on a fait venir une spécialiste, c'est Agnès Curel. Bon. bonjour. Bonjour, bonjour Agnès. Vous êtes à ce micro pour vous êtes maîtresse de conférence, littérature à l'université Jean Moulin Lyon 3 au sein du laboratoire Marge. Vous travaillez sur le théâtre forain du 19e siècle et vous avez écrit Grand théâtre du boniment, pratique spectaculaire et imaginaire culturel, édité aux presses universitaires de Lyon. Ça sortira à la fin de l'année, c'est ça ?
Oui, voilà, exactement.
Il est tout chaud bientôt, quoi. Il sort tout bientôt.
Voilà, c'est en préparation, mais on y est presque.
Alors, on va parler ensemble des premiers monstres dits de foire. On parlait quoi de monstres humains à l'époque ?
Alors, en France, on parle plutôt de phénomènes. Mm-hmm. On peut parler de monstres de foire, on en trouve dans les textes, mais on préfère le terme de phénomène. D'ailleurs, Clémentine Delay, dans ses mémoires, elle parle de phénomène. Ouais. C'est un peu plus neutre. Ça évite de parler de la monstruosité. Ouais. Ça permet beaucoup plus de choses, en fait.
Dans ces monstres-là, qui est-ce qu'on voit apparaître le plus fréquemment ? De ces phénomènes, parce que vous venez d'expliquer qu'il fallait dire phénomène et moi je dis monstre. Allez, on y va.
C'est problématique.
C'est parti, Agnès. J'écoute pas du tout. Non, c'est...
Alors déjà, je vais peut-être un petit peu casser le mythe, mais ouais. On a beaucoup de faux phénomènes.
Ah, bah oui.
D'ailleurs, Clémentine Delay dit « Oh, la femme à barbe que j'ai vue à Nancy, elle a à peine trois poils sur le visage. Ouais. Moi, je suis une vraie femme à barbe. » Donc, on va avoir des personnes très grandes qui vont ensuite mettre des gros talons ou des grands chapeaux pour être des géants. On a des femmes à barbe, vraies ou fausses. On a aussi des nains.
Des hommes forts.
Des hommes forts, exactement.
Des siamois ?
Alors, les siamois, c'est extrêmement rare.
Ah oui, d'accord. Okay. Les jumeaux, c'est déjà un objet un phénomène pas suffisant. C'est pas suffisant. Est-ce que c'est lié au handicap ? Déjà, à l'époque, quand c'est pas des faux, est-ce que c'est lié à un handicap ?
Ça peut l'être. Ouais. Par exemple, peut-être que le plus spectaculaire, c'est Kobelkov, l'homme tronc, qui s'exhibe dans les foires, se présente et surtout insiste sur le fait qu'il peut faire énormément de choses, même en étant homme tronc, c'est très impressionnant.
Donc il a pas de jambes,
fusil, c'est ça, pas de jambes, pas de bras.
Ah waouh.
Enfin,
oui.
Pas de chocolat. Voilà.
merci Benoît.
Benoît, 6 ans.
donc en fait, il y a ces personnages-là qui peuvent, soit donc c'est issu d'un handicap, soit d'une difformité, mais qui n'est pas non plus lié à un handicap. Une taille plus grande, plus petit, en gros.
Voilà, c'est avoir une spécificité. Après, le grand roi de la présentation des phénomènes américains, c'est Barnum.
Barnum,
il vous explique que le tout, c'est de la mise en scène. Mm-hmm. C'est qu'il suffit de créer une légende, de savoir jouer sur les artifices, et que même si on est une vraie femme à barbe, en réalité, il faut quand même entrer dans le show.
C'est qui les monstres célèbres ?
Bah, Clémentine Delay, même si elle ne s'est pas présentée dans des foires, techniquement, elle raconte dans ses mémoires qu'elle a un petit peu participé à des spectacles de cirque à un moment. Mais sinon, on a Kobelkov, l'homme tronc, qui a été assez célèbre. Et puis, via les États-Unis avec Barnum, par exemple Annie Jones, qui était aussi une femme à barbe, qui gagne vraiment en notoriété, et Tom Pouce, du côté plutôt des
Lilliputiens. Il y a la Vénus Hottentot aussi. Est-ce qu'elle était exhibée dans les foires ?
Alors, elle n'a pas été...
Elle a été étudiée, en tout cas, mais...
Du 19e siècle, excusez-moi. Ouais. Mais elle fait partie de ces spectacles de phénomènes qui vont être du côté des phénomènes raciaux. Et vont véhiculer énormément de clichés racistes. Mais là encore, c'est de la mise en scène qui conforte le spectateur dans ce qu'il imagine être un sauvage qui arrive de contrées lointaines. Beaucoup font en fait ce qu'on appelle maintenant des blackface, c'est-à-dire que c'est des forains qui se griment, qui mettent du noir sur leur peau et qui vont faire tout ce qu'on imagine devoir faire quelqu'un qui vient de là-bas.
Qui allait voir ça ? Qui allait voir ces exhibitions ?
Bah un peu tout le monde, c'est-à-dire que c'est des spectacles extrêmement populaires dans le sens où massifs. On peut avoir des personnes plutôt chics. La fête à Neuneu, actuellement, en fait, c'est la foire de Neuilly-sur-Seine. C'était une des fêtes foraines les plus célèbres à l'époque. et les plus chics.
Neuneu, c'est Neuilly, en fait.
Oui, exactement.
Franchement, je suis vraiment la Neuneu, je n'avais jamais su ça.
Et la foire au pain d'épices, qui est actuellement la foire du Trône.
trône, pouvait vraiment brasser des centaines de milliers de spectateurs par jour, et les spectacles étaient très peu chers. C'était un des loisirs les plus faciles d'accès.
Oui. D'ailleurs, le personnage de Rosalie le dit, il n'y a pas de mal à divertir les gens, à leur faire plaisir, à leur apporter un petit peu de joie au quotidien. Quand est-ce que ça a été interdit? Est-ce que ça a finalement été interdit? Parce que on est quand même... ça questionne.
Est-ce qu'il y avait de la maltraitance?
Ouais, bah oui.
Alors, je pense qu'il... J'ai pas forcément, mais...
L'exploitation.
En fait, ça peut être très nuancé. Il peut y avoir de l'exploitation. La Vénus autantote, c'est de l'exploitation pure et simple.
Il y a eu ce film Vénus Noire, notamment Rachid Boucherab. Ouais.
Et en même temps, on a aussi des personnes, Kobelkov, l'homme tronc, est devenu immensément riche. Mmh. Et en fait, il était complètement positif dans cette expérience.
Il était producteur, c'est ça? Il se produisait tout seul?
Exactement. Il a acheté sa baraque, ensuite...
On s'en contacte.
C'est vraiment... C'est une trace.
Pardon, Agnès.
Là où je vais peut-être vous surprendre, c'est qu'en soi, ça n'a pas été interdit, du moins en France, et pas non plus aux États-Unis. En revanche, le préfet de police pouvait autoriser ou pas un spectacle selon l'obscénité, mais ils avaient plus peur des réactions du public, est-ce que ça pouvait créer chez le public, que de la question de est-ce que cette personne est bien traitée ou non.
Merci beaucoup, merci Agnès pour toutes ces explications. Je rappelle, Grand Théâtre du Boniment, pratique spectaculaire et imaginaire culturel, édité au PUF, au Presse Universitaire de Lyon, au PUL. C'est fin 2024, et il y a Tanguy Pastureau avec nous, on parle de quoi tout à l'heure?
Je parlais du ministère de la Culture, 200 millions d'économies à faire avec un impact réel sur spectacle vivant. Rachida Dati est furieuse, et ça, c'est le premier signe de l'apocalypse.
On en parle jusqu'à 12h30 sur France Inter. Oui. C'est retour de la bande originale avec Fanny Rué, avec Isabelle Moitier, Tanguy Pastureau est là, Julien Santini également, Alexis Le Rossignol, Jérémy Crédville, pour nos invités Nadia Tereskevitch et Benoît Magimel. Et pour Rosalie, en salle, ce mercredi, film que je vous invite chaleureusement à aller découvrir sur grand écran avec nos deux invités, film de Stéphanie Di Giusto. Vous savez pourquoi elle s'est intéressée, Stéphanie, à cette femme frappée d'hirsutisme ou de femme à barbe, si on le dit de façon plus basique?
Je crois que Stéphanie était fascinée par cette photo de Clémentine Delay. Que c'est quelqu'un qui avait besoin de parler d'amour. Stéphanie, elle était au plus proche de nous. Elle a voulu vraiment parler de sentiments. Elle dit tout le temps, c'est pas des poils, c'est des sentiments. Elle avait besoin de parler de tolérance et de raconter cette histoire. Et c'est vrai que sur le tournage, elle était tellement avec nous. C'est vraiment un cadeau de travailler avec quelqu'un qui est aussi investi, qui d'ailleurs... Elle a réuni tout le monde parce que tout le monde a voulu raconter l'histoire de Rosalie. Elle nous a convaincus parce qu'avec tant d'humanité et tant de bienveillance, c'est sincère en fait. Ouais. Elle a raconté ça avec sincérité et c'était un besoin chez elle.
Quitte à vous mettre tous les deux dans une situation pas forcément simple, à savoir quasiment échanger le premier regard lorsque vos personnages échangent le premier regard, Benoît, dans le film.
Oui, c'est formidable de pouvoir travailler comme ça aussi.
En tournant chronologiquement, donc.
Voilà, et puis de pas se connaître comme les personnages et de se découvrir à la première prise, à la première scène. Si vous voulez, ça peut apporter des surprises et des émotions.
Ce qui fait que vous pourrez plus jouer ensemble, quoi.
Pardon ?
Vous pourrez plus jouer ensemble, du coup.
C'est terminé, ils se connaissent trop bien maintenant.
On s'est croisés sur un trottoir, on s'était vu du temps, on s'est dit « Ah non, t'approches pas
!» C'était la consigne. Et ça aide vraiment à... Ça vous amène vraiment dans un autre état de jeu, le fait de ne pas, ne serait-ce que d'avoir, déjeuner un jour ensemble, vraiment?
Moi, je crois que ça porte, ça porte.
Benoît avait gardé tout son mystère et ça crée en fait quelque chose. Enfin, du coup, on s'est rencontrés dans les scènes et la complicité, elle est née au travers des scènes. C'est comme une vie dans une vie, quoi. Enfin, on s'est rencontrés dans la fiction et je trouve ça quand même génial parce que du coup, il y a une sorte d'atmosphère aussi. Enfin, j'étais intimidée. On était assez pudique. Enfin, il y avait quelque chose d'assez sincère.
On se découvre à travers nos émotions nos réactions. Il y a beaucoup de violence aussi dans les scènes. Et c'est vrai que je voyais Nadia parfois totalement désœuvrée. éprouvée. Et parfois, on sort un peu du tournage. Quoi. On a l'impression vraiment de vivre ce qu'on fait. Quoi.
Ouais. Et vous n'avez pas éprouvé une quelconque forme de coquetterie à l'idée de vous dire « je ne vais pas apparaître, moi, jeune artiste, actrice, qui est déjà récompensée avec une barbe, et me dire que le désir, le fameux désir dont on parle souvent des réalisateurs, va pouvoir peut-être en prendre un coup ?» Pas du tout. Et puis moi, je vous trouve très belle dans ce film. Vous l'êtes de toute façon, Nadia. Vous êtes interrogée deux secondes dessus ou pas sur cette question ?
Bah, en fait, je me rends compte maintenant, pas du tout. Parce que comme je savais que ça allait être Stéphanie, je pense que j'aurais pensé au ridicule si ouais. ça n'avait pas été Stéphanie. Mais comme je sais que même si elle se concentrait sur l'histoire d'amour et sur les sentiments et qu'elle ne pensait pas à l'image, en fait, c'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas faire quelque chose de beau. Et elle, je le voyais même dans l'écriture qu'elle voulait sublimer ce personnage et qu'elle voulait la rendre belle. Et donc j'avais une confiance totale, en fait. J'étais tellement contente d'incarner ce rôle et voilà, et de travailler avec elle que j'ai pas hésité une seconde. Ouais.
Et c'est une histoire d'amour, vraiment.
Je me rappelle d'une scène où la première fois où elle se dévoile un peu aux gens du village, il y avait tous ces figurants et il y en a un qui a réagi avec beaucoup de violence et de mépris. Vous voyez, il y avait des réactions comme ça qui... Et finalement, les gens ont réagi spontanément.
Oui, oui. Ouais, ouais.
Et on voyait un petit peu à quel point ça pouvait déranger, susciter de l'envie, de la curiosité.
Oui, parce qu'on voit ce double mouvement dans le film. On voit que, passé la surprise, il y a un intérêt de beaucoup d'hommes pour Rosalie, qui la trouve belle, qui la trouve attirante. Il y a une sorte de... Elle est aimante, c'est une sorte d'aimant, en fait. Et ça interroge aussi, tout d'un coup, sur le rapport qu'on a au désir, au genre, à la représentation du genre, c'est pas anodin.
Non, pas du tout. Ouais. Non, mais je trouve que ça, les codes de la féminité, ouais. c'est. En fait, je trouve ça super au cinéma d'explorer ça, de questionner ce qui fait qu'on est femme et pourquoi on est aussi. Parce qu'en fait, même Rosalie, elle doit se surféminiser en fonction des codes de la société. Donc, elle est très apprêtée, même elle en fait trop.
Oui. Des fleurs tout le temps.
C'est une vraie recherche avec Stéphanie de se dire, mais comment faire en sorte que. En fait, elle se surféminise, etc. Parce qu'elle a besoin de prouver aux autres qu'elle est femme. Et je me suis dit, pourquoi elle doit prouver aux autres alors qu'en fait. Et pourquoi on doit. Enfin, je trouve ça super de montrer aujourd'hui voilà un personnage qui a le droit de s'autodéterminer, de pas se mettre dans une case forcément, parce qu'au final qui elle est, on sait pas qui on est, elle est Rosalie et voilà, quand on demande qui c'est, je sais, enfin voilà, je trouve c'est intéressant de déstabiliser un peu et d'enlever des barrières sociales qu'on a et que j'ai aussi, en fait.
Naturellement, qu'on a tous, naturellement. C'est une très belle histoire d'amour, vous l'incarnez parfaitement tous les deux, c'est Rosalie, c'est dans la salle, c'est demain. Demain, il faut y aller, c'est le film de Stéphanie Di Giusto, je peux pas être plus enthousiaste que ça.
Merci.
Voilà, tout simplement. Merci. Et tout de suite, dans la bande originale, je suis très enthousiaste aussi pour Tanguy Pasturo.
Ah oui.
On est sur des émissions un peu spéciales cette semaine. Pas de Nagui, pas de Daniel Morin. On a gardé Leïla et en fait, ça roule. Donc je pense que désormais, on va pouvoir se passer d'eux. Et aussi des humoristes, on n'en peut plus de l'humour. Ce sous-genre pour rockers qui ne savent pas chanter. Et aussi des techniciens. Leïla, on va vous mettre en régie et vous lèverez le micro quand vous voudrez parler, comme à la Foire du Trône. Hein, vous pourrez prendre le ton qu'ils ont à la Foire du Trône aussi. Hein, ça cassera la monotonie de l'antenne. Oh, est-ce que vous avez encore la bande originale hein, la Foire du Trône. Les gens disent que cette année, c'est chaud. Ce qui montre qu'ils sont jamais allés à la Foire du Trône. Ça a toujours été un coupe-gorge, ce truc. Moi, je me suis toujours rendu sans un sou, si bien que j'ai jamais fait un manège à sensation. Heureusement que j'ai été jeune en Bretagne, sinon j'aurais jamais vomi. Alors que vomir, c'est formidable, c'est manger à l'envers. Vomir, c'est le moonwalk du dîner. J'ai pas claqué un centime à la Foire du Trône. L'avantage des lieux où il y a de la délinquance, c'est que tu fais des économies. Ils en parlent pas de ça sur F de souche. Toujours avoir le côté négatif des choses. Non, Leïla, vous pourriez gérer toute seule. En plus, vous avez de la poigne. Donc, si les invités vous demandaient un café, vous répondriez, bah, tu sais quoi, tu vas aller le chercher tout seul, du con. Hein, ce qui fait que les plus sensibles pleuraient et se feraient parler de l'émission. En plus, ça coûterait moins cher, un seul salaire, parce qu'on est ruiné. L'État est ruiné. Ruine morale, d'abord. Hein, on n'a plus de projet de société, à part réparer ce qui, avant, fonctionnait bien. Et ruine financière. Gabriel Attal doit faire 10 milliards d'euros d'économies sur 2024, 20 de plus sur 2025. Donc, c'est pas serrer la ceinture qu'on doit faire. La France doit se mettre au régime comme j'aime, qui en plus ne fonctionne pas dans les spots. Adriana Carambeu, sapée en chemise 6 ans, vous dit, je l'ai fait, alors pourquoi pas vous? On a juste envie de répondre, bah parce qu'on n'arrivera jamais au même résultat. Cocotte. Hein, ça revient à tuner une carriole à bœuf chez Feu Vert et s'inscrire à la course sauvage de 2h du mat sur le parking du Carrefour Express face aux Audi. Tenez. Preuve qu'on n'a plus d'argent. Hier, je lisais Le Parisien à Paris en terrasse, tout en contractant sur cet LM un prêt pour payer ce double expresso. Quand je tombe sur un article concernant les coupes budgétaires au ministère de la Culture. Or, ce ministère, c'est Rachida Dati, la femme d'Attila. Un regard de travers, elle vous éclate son brushing dans la face. Donc vous dites, c'est pas à elle, vraiment, que je retirerai du fric. Il vaut mieux sabrer le budget de l'écologie. De toute façon, c'est cuit. Hein, quand un 6 avril, t'as 34 degrés dans le sud-ouest, tu sais que c'est pas la peine de te projeter dans l'avenir. Hein, je pense que les conseillers d'orientation au collège, aujourd'hui, ils disent aux jeunes, quelles études supérieures? Vas-y, éclate-toi. Hein, le sniff de la colle, fais l'amour. Hein, parce que Dati, elle est coriace. La presse, il y a 3 semaines, rapportait un SMS qu'elle avait envoyé à Attal avec écrit « Je vais transformer ton chien en kebab ». Alors, elle a démenti avoir écrit ça. Bon. Et la semaine dernière, elle a même croisé le chien en question. On a vu ça sur les réseaux. Volta. Alors, qui, véridique, a fui en la voyant? L'instinct des animaux qui fait que quand il y a une personne toxique, il se barre. Alors que nous, on reste. Et on dit « Bah, patron, on était parti pour se serrer la main. Comment la vôtre a-t-elle fini sur mes fesses ? Hein, je suis pas un Picasso, j'ai tout dans l'ordre. Je comprends pas. » Bref, la situation est si grave qu'ils ont amputé le budget de la culture de 200 millions d'euros. Attal a 80 gardes du corps qui ont ordre de tirer à vue s'ils voient Dati, donc à moins de 400 mètres. Ça veut dire quoi, 200 millions en moins ? Eh bien, l'Opéra de Paris ou la Comédie Française ont vu leur budget raboter. La Comédie Française, vous savez, c'est cette institution pénible qui fait qu'on est obligé de dire de la Comédie Française à la suite du nom de celui ou celle qui est Guillaume Gallienne, Laurent Lafitte. Mais enfin, ça prend des plombes. Recevez Tex ou Laurie et on n'en parle plus. Donc, moins de moyens, ok. Seulement, dans le spectacle vivant, tous les frais sont fixes. L'électricité, les charges, la plomberie, la billetterie. Ça fait que le seul moyen de s'en sortir, c'est de couper dans l'humain. En gros, faire moins de spectacles. Et quand il y a des spectacles, moins de gens sur scène. À Molière, on met juste Ganarelle qui cause tout seul et on dit que c'est une réécriture actualisée. Dans le théâtre, ce terme, ça veut dire que c'est chiant. Hein. Donc tout ça, ça fait que partout dans les salles, il n'y a plus que des one-man shows. Ça coûte que dalle. Une personne, un micro, des blagues. Ouais. Alexis le Rossignol, en plus, c'est le public qui lui offre des cadeaux, hein, voyez, en espérant qu'il les montre sur scène. Avant, l'espoir des gens, c'était d'être médiatisé. Maintenant, c'est juste que la tourte de ta sœur soit sous les projecteurs. 20 ans de Cyril Lignac, ça nous a niqué en tant que société. Hein. Il s'est fait un modèle économique alternatif, Alexis. Il va finir en une du magazine Forbes, entre un poireau et des cannelés, en photo, The French Winner, Alexis The Bird. Quoi. Hein, bon, tout ça pour vous dire que le service public, petit à petit, bah, lâche la culture comme elle l'a lâché le reste avant. Alors, ce sont des privés, certainement, qui vont reprendre le truc. La Fondation Machin pour l'art, le Fonds Ceci pour la création, avec à leur tête des milliardaires cons comme des pelles qui se refont une image de penseur. Alors, j'ai rien contre. Si ça permet de financer des spectacles, c'est ok. Mais prenez le théâtre de Chaillot, la danse. Ils font aussi des programmes à dimension sociale, de Mayotte à la Guyane, dit le directeur aux Parisiens. Mais le milliardaire qui est partant pour financer les shows clinquants à Paris, le sera-t-il aussi pour les ateliers pas médiatisés ailleurs et qui sur place sont tellement utiles à tellement de gens ? Pas sûr. Liquider le spectacle vivant, c'est liquider le dernier lien entre nous. Après, moi, si on veut du one man, je serai à Paris à partir du 3 octobre, au théâtre Tristan Bernard, tout seul, pas cher. Voilà.
Bravo, Tanguy Pasturon. Cherchais tes dates, mais tu viens de les donner tout simplement. Rue du Rocher, Tristan
tout
Bernard.
Seul.
Tout seul. Ouais. Tout seul. Et allez donc tout seul aussi au cinéma. C'est les vacances pour la zone parisienne, mais pas pour tout le monde. Mais en tout cas, ouais. Un mercredi après-midi, Rosalie, Stéphanie Di Giusto. On a parlé de cette femme à la sensualité troublante, de cet amour sans condition qu'elle espère dès le début de ce film et qu'on lui souhaite d'ailleurs. C'est un être éminemment romanesque. C'est un personnage très très fort. Pas une victime. Et ça aussi, ça fait du bien de ne pas présenter toujours les personnages féminins comme des êtres qui subissent, mais plutôt des êtres qui sont capables d'enlever avec elles, avec une forme de naïveté quand même aussi, de ce personnage, Nadia Tereskevitch, qui est convaincue que le regard des autres peut vraiment changer.
Oui, c'est une belle naïveté, c'est-à-dire ouais. qu'elle n'est pas, pas dupe, je pense qu'elle voit tout, mais elle a tellement envie en fait, de vivre sa vie de femme et de s'épanouir qu'elle va en fait... Elle va prendre sa liberté, mais sans aucune revendication. Elle s'oppose à personne, en fait. Elle a envie, elle croit dans l'amour. Et je trouve que c'est ce que dit Stéphanie Soin, ouais. c'est que c'est un film sur la croyance et que le personnage d'Abel, il croit plus en rien et qu'elle va lui redonner foi. Et je parle de foi en général. En
c'est
plus,
vrai.
D'être une forme de positivité qui, moi, me touche, de jamais lâcher. Et même si elle peut souffrir, elle le fait en silence. Parce qu'en fait, elle est combative. Et je pense qu'on a le droit de souffrir aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qui... Elle souffre de sa différence parce qu'elle se sent rejetée. Et pour autant, elle lâche pas.
Elle veut être aimée. Elle aide beaucoup aussi les femmes de cette forge, là où ils vivent, là, dans ce village.
Oui.
Hein, elle dérange aussi pour ça, parce qu'elle commence à mettre un peu le feu aux poudres. pour laisser les femmes accéder au café, par exemple.
Oui.
Et donc elle c'est presque une avant-gardiste, cette femme. Elle cherche l'amour, elle arrive, elle veut un plan, il parle logement, un enfant. elle rêve d'être heureuse et de vivre voilà, sans qu'on la laisse tranquille.
Mais l'individu différent est toujours souvent considéré, dès qu'il y a un problème, comme l'individu responsable de tout. Et on verra comment, face à l'injustice aussi, ce personnage essaye de rester droit, debout, le plus longtemps dans cette foi qu'elle a. Et en effet, il y a quand même une dimension, pas forcément religieuse, en effet, cette dimension de croyance en un monde meilleur, en une sorte d'acceptation. C'est Rosalie, c'est en salle ce mercredi, tout de suite dans la bande originale. C'est Julien Santini. Ouais, Julien. Salut Julien.
Bonjour, salut tout
Bonjour
le monde
Julien.
Et bienvenue dans la chronique de Julien Santini. La chronique de Julien Santini. Ma troisième, plus exactement. Avant de commencer, j'aimerais vous témoigner ma gratitude.
Oui.
Après mes deux premières, j'ai reçu beaucoup de messages d'amis qui m'ont félicité. Même des vieux amis, parfois. Même des vieux amis que je n'avais pas vus depuis beaucoup d'années. Bande de gratteurs. Après, ils ont été unanimes. Ils m'ont dit, ta première était super, l'entretien d'embauche est réussi. Ta deuxième, on a quand même vu que t'avais beaucoup moins de choses à dire. En même temps, je me dis, c'est bien. Voilà, si je peux avoir des chroniques un peu moins bonnes, c'est que je commence à être installé. C'est que je fais partie de la bande. Du coup, ça voudra dire, si je fais partie de la bande, que j'aurai forcément, j'imagine, à un moment, un entretien annuel d'évaluation. Entretien qui sera avec vous et Nagui, avec vous, Leïla. Et ça ne sera pas pour me déplaire. Rapport, on va pas se mentir, au fait que voilà, c'est bien d'avoir un entretien, parce que c'est important de faire des points d'étape. Alors, s'il vous plaît, du rire, oui, mais pas de mépris. Après, attention, je parle d'entretien avec vous, Leïla et Nagui, si monsieur Nagui daigne rentrer de vacances. Parce qu'au moment où je dis ces mots, est-ce que beaucoup de gens en France vont se dire, il prend quand même beaucoup de risques, cet humoriste, pour une troisième chronique? Oui. En même temps, au moment où je vous parle, après vérification, est-ce qu'il est 3h du matin aux Bahamas? Oui, également. Ce matin, j'ai beaucoup de joie de pouvoir vous rencontrer, Benoît Magimel et Nadia Tereskevitch. Ça a été un long chemin pour en arriver là. It's a long, long way. Nadia, je suis désolé, mais je suis un peu troublé, rien que de dire Nadia. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que Nadia, c'est le prénom de ma femme. Et peut-être que ce qui me trouble encore plus, c'est que là, les gens nous écoutent, mais ils ne voient pas forcément votre regard envers moi depuis le début de la chronique. Je vais essayer de faire les sous-titres. Est-ce que vous semblez également, peut-être, légèrement troublé? On va être honnête, pas du tout. Nadia, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Je vous ai envoyé un message sur Instagram il y a 2 ans et demi, en fan que je suis. Je vous avais envoyé des félicitations pour la série Possession. Voilà, comme quoi j'étais admiratif de votre jeu. Vous avez lu mon message, ça m'a beaucoup touché. Vous n'avez pas forcément répondu à mon message. Et en même temps, c'est normal, parce que je me dis que pris dans le tourbillon de la vie. Alors aujourd'hui, Nadia, posez-moi la question très sincèrement. On dirait, est-ce que je vous en veux? Dites-moi, Julien, vous m'en voulez? Dites-le-moi.
Julien, vous m'en voulez?
Vous avez vu, Nadia, un petit silence de 3 secondes.
Oh, merde.
Ça fait mal. Alors imaginez, 2 ans et demi. Voilà, mine de rien, on rigole. On rigole, mais on arrive déjà à la fin de cette 3e chronique. Alors, c'est vrai que la transition est un peu brutale, mais je me disais en même temps, la ville ne l'est-elle pas? Et en plus, c'est une chronique un peu particulière pour moi, pour cette 3e, car il se trouve que c'est ma première en direct. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, il est très exactement 12h24, et je suis donc officiellement dans le créneau le plus écouté de France Inter.
Alors c'est vrai, Julien, mais il faut quand même pas vous enflammer. Hein. Si vous voulez rester, il faut garder les pieds sur terre. Hein.
Oui, seulement, pardon Leïla, mais ici, personne ne s'enflammait. Voilà. Faire de la radio sur le créneau le plus écouté de France Inter. Faire le constat qu'une chronique sans interruption de Nagui, ça n'a pas exactement la même saveur. Avoir rencontré Nadia Tereskevitch et mis les pendules à zéro, se rendre compte, également un peu tard, que je n'ai absolument pas parlé de Benoît Magimel. Acteur que pourtant j'adore depuis déjà mort il y a bien bien longtemps, et dans Pacifiction, bien plus récemment, où vous êtes monstrueux, même si je me suis endormi après 4 minutes de film. Merci à toutes et tous autour de cette table, à vous, auditeurs en plein émoi, c'était la chronique avant la quatrième chronique.
Bravo, bravo Julia. Et bravo, on te retrouve tous les vendredis et samedis à 19h30 au Petit Palais des Glaces, Julien Santini. Et je suis sûre que Nadia va te faire une réponse sur Instagram dans la foulée obligatoire. Direct. Elle s'est fait afficher. Quelques mots de vos projets, des choses qui arrivent pour vous, Nadia. Il y a Submergé.
Ouais. Nalante Kavaïté, qui est une réalisatrice lituanienne. Et oui, ça se passe sur une île dans un futur proche, submergée par les eaux. Et c'est une jeune femme qui s'occupe de vieilles personnes. Et un jour, il y a un bateau de voyageurs qui arrive et les vieilles personnes meurent une à une et elle comprend pas pourquoi.
Voilà. Ça donne envie tout de suite. Et il y a un tournage aussi en Italie cet été, un super tournage
pour un western. Un western, donc je vais jouer une sorte de Calamity Jane, donc je commence du cheval. Il y a du boulot.
Il y a du travail. En italien.
Tout en italien.
Ouais, vous êtes incroyable pour les langues. Je vous avais vu dans La Dernière Reine, un film majestueux, si vous avez l'occasion d'aller le voir, où vous parlez arabe. Et donc là, en italien, tout le film.
Ouais.
Ça devient prétentieux, là.
Non, ça devient super.
Ça devient prétentieux,
super,
trop de
absolument
langue.
Super. Benoît.
Je rêverais de faire un western.
Ah, ben voilà.
Tu veux pas parler au réalisateur pour moi.
Un tournage cet été en Italie avec Nadia Tereskevitch. Ce qui s'annonce pour vous, Benoît, en septembre 24, ni chaîne ni maître. Qu'est-ce qu'on peut dire de Simon Moutaïrou?
C'est un scénariste. J'allais te dire, il est d'origine scénariste. c'est un scénariste de talent et qui a fait son premier long métrage et le thème est l'esclavage en France, en Guyane. Non, c'était à l'île Maurice.
L'île Maurice.
Ouais. Bon, c'est une petite participation.
D'accord. Et on vous retrouve bientôt dans une galerie, donc, pour parler peinture.
Absolument pas.
Absolument pas. On va vous pousser.
Je vendrai bientôt.
Ah, alors voilà, on attend avec impatience de découvrir votre travail. En attendant, dans un futur plus proche, c'est-à-dire demain, un dodo, c'est Rosalie de Stéphanie Di Giusto en salle avec vous, Nadia avec vous, Benoît. Merci, c'était un plaisir
merci
de vous recevoir.
Merci.
On a des excuses à présenter, Jérémy Crédville.
C'est vrai qu'il y a des désolés pour Angie, Michel. Étienne, Gabriel, Angela, Andy, bref, toutes les personnes héroïnes de chansons qui ont été oubliées dans le blind test. Et encore, je parle pas de Caroline, Nathalie, Lucie, Raphaël. Donc Benoît, Nadia, faudra revenir demain pour continuer la promo de Rosalie. Désolé pour toutes les actrices moches qui ont bien compris ce matin que Benoît Magimel n'aurait pas aimé tourner le film Rosalie avec elle. Alors Benoît, vous m'avez donné les noms à la pause que je vais vous révéler tout de suite. Voilà, c'est pas Radio Balance. Désolé enfin pour nos trois jeunes auditeurs présents qui ne sont plus que un maintenant. Studio ce matin. Ils ont quand même eu droit à des allusions discrètes, hein, comme toucher de la poutre, se faire épiler le cul au sabre laser, ou bien un diabétique qui me fait un cuni. Voilà, voilà. J'espère vraiment que vous ne l'avez pas entendu, sinon ils sont équipés. Hein.
Merci Jérémy Crédville, merci à toute la bande autour de la table et à vous nos invités,
merci.
Benoît,
merci.
Nadia, c'était une joie de vous voir. Demain dans la bande originale, on reçoit Jacques Attali, on va parler de consolation, c'est une autre thématique, on verra les chroniques associées à cette thématique-là. Et merci de nous avoir suivis, passez une très très belle journée sur France Inter.